Livre premier.
Chapitre 2. Chrysostome avait alors 53 ans et il achevait à peine la troisième année de son épiscopat au moment où s'ouvraient nos récits. Monté sur le premier siège de la chrétienté orientale par la volonté de l'empereur et de son ministre, malgré l'opposition du clergé de la ville et les cabales d'évêques considérables des provinces, il avait eu de rudes débuts. Et malheureusement, rien en lui n'était fait pour les adoucir. Dire pour expliquer la vie épiscopale d'un tel homme, si courte et si remplie d'angoisse, que le monde persécute les saints et que Dieu le permet afin d'éprouver ses fidèles, ce n'est rien dire absolument, ou c'est entrer dans des considérations mystiques que l'histoire ne nie ni n'affirme, parce qu'elles sont en dehors d'elle. Et encore faudrait-il expliquer dans ce système comment les fidèles travaillent eux-mêmes à s'attirer les épreuves que leur inflige le monde. Chrysostome vaut bien qu'on l'étudie un peu plus sérieusement sans que ses souffrances fassent oublier ses fautes ou que sa sainteté et sa gloire voilent autour de lui la vérité. Que l'Église le compte parmi ses saints martyrs, elle en a le droit. Car il fut iniquement persécuté. Que la gloire le place au rang de ses plus illustres enfants, ce n'est que justice, car il fut un orateur admirable. Mais l'histoire va chercher l'homme à travers toutes les auréoles. J'essayerai de le faire ici avec le respect que méritent de grandes infortunes et une grande mémoire. Le jour où l'eunuque Eutrope, dans la plus louable des intentions, arracha l'éloquent prêtre d'Antioche à sa vie d'études et de renommée modeste pour en faire l'évêque de la seconde Rome, il commit une faute qu'il reconnut bientôt à ses dépens. En face d'une cour frivole et galante qui s'occupait du gouvernement de l'Église au milieu des plaisirs, il plaçait le plus intraitable des moines. En face d'un clergé tout mondain, un anachorète qui n'estimait que le désert. En face d'une société fière de sa richesse et de son luxe, un homme qui avait la richesse en effroi et poussait à l'extrême l'ostentation de la simplicité. Aussi, à peine le nouvel élu est-il installé sur son siège que la guerre commençait entre lui et ceux qu'il venait gouverner. Sans doute Chrysostome trouvait dans son troupeau bien des plaies saignantes à guérir, mais il ressemblait trop à ces opérateurs hardis qui aiment l'art pour l'art et abusent du fer et du feu pour extirper un mal sans s'inquiéter beaucoup du malade. La solitude d'où il sortait ne l'avait guère habitué au ménagement des hommes. Et toute concession en face du bien absolu lui paraissait un manquement au devoir et presque un crime. Fidèle à l'idéal de sainteté qu'il s'était imposé à lui-même, il l'exigeait imprudemment des autres et portant dans l'exercice d'une autorité presque incontrôlée le défaut habituel des solitaires jetés par les événements dans le mouvement du monde, il était ombrageux, hautain, jaloux de son pouvoir, toujours prêt à l'accroître, impatient de toute opposition, et convaincu que les inimitiés qu'il soulevait s'adressaient non à lui mais à Dieu même, qui lisait ses intentions dans le fond de son âme. Ses admirateurs étaient forcés de reconnaître qu'il était orgueilleux et opiniâtre, et pourtant ils le respectaient tant il y avait de vertu sous cet orgueil. Ils l'appelaient le saint, et ceci était vrai. Ses ennemis l'appelaient l'irascible, le superbe, le violent. Et ceci était vrai encore. Ce vent de fortune prodigieuse qui avait amené un simple prêtre de province sur le siège métropolitain de tout l'Orient, à côté du trône des Césars, lui semblait l'effet non d'un caprice ou d'une faveur des hommes, mais d'une volonté expresse de Dieu qui le destinait à tout changer. Imbu des lectures de l'Ancien Testament dont il s'était infusé, pour ainsi dire, l'esprit âpre et inflexible, il se donna, vis-à-vis des puissants de son temps, le rôle d'un Nathan devant David, d'un Élie devant Jézabel, d'un Isaïe devant les prêtres de Baal. Mais les prêtres de Baal étaient nombreux, et ce furent eux qui commencèrent sa ruine. En lutte avec tout le monde à la fois, il ne réussit, chose triste à dire, que contre celui qui l'avait élevé. La réforme de l'Église de Constantinople n'était pas aisée d'ailleurs, et le contemporain que nous avons cité plus haut, Palladius, qui nous a laissé sous forme de dialogue une vie de Jean Chrysostome écrite pour sa justification, nous initie au rude travail dont il fut près de lui le spectateur. Dans l'énumération des vices du clergé qu'il fallait avant tout prendre corps à corps sous peine de manquer au premier devoir de l'évêque, Palladius en signale trois qui à eux seuls eussent amené la ruine de cette église, savoir la luxure, la gourmandise et l'avarice. Vraie métropole des maux, ajoute-t-il, attendu qu'elle les engendre et les nourrit. C'était surtout dans le coupable abus des sœurs agapètes ou femmes sous-introduites que consistait ce vice de luxure reproché par Palladius au clergé byzantin. Cet usage assez récent, si nous en croyons Chrysostome lui-même, avait si bien prospéré, s'était si bien répandu partout à la manière de livret, qu'il infectait maintenant la chrétienté entière en Occident comme en Orient, et menaçait de passer à l'état d'institution dans l'Église. Les docteurs avaient eu beau protester, les conciles lançaient l'anathème, les lois civiles elles-mêmes sévirent contre ce concubinage des clercs et cette prostitution des vierges, aussi mortelle à la discipline que flétrissant pour la religion. L'abus résistait à tous les remèdes et semblait multiplier ses racines sous les censures mêmes. Le corps des clercs, infecté de ce vice, formait une conjuration puissante devant laquelle plus d'un évêque et plus d'un docteur s'étaient brisés. Témoin Jérôme, exilé de Rome pour l'avoir combattu. Chrysostome n'était pas à son début dans cette lutte périlleuse. N'étant encore que diacre d'Antioche, il avait composé deux traités restés fameux. Le premier à l'adresse des clercs, le second des vierges qui s'abandonnaient au désordre de cette fraternité menteuse, et lorsque, devenu évêque, il retrouva dans l'Église que Dieu lui confiait la même plaie, plus profonde encore et plus envenimée, il saisit le rasoir, suivant une métaphore familière de son biographe, laquelle probablement venait de lui-même, et se mit à opérer sans pitié comme sans crainte. Le dur médecin fit comparaître devant lui en particulier tous ceux qui savaient vivre de la sorte. Chassa les uns, réprimanda les autres avec menaces, puis renouvela en commun ses exhortations et ses censures. « Mal pour mal, leur disait-il, je préfère à des clercs tels que vous les entremetteurs de la débauche publique. » Ces misérables sont éloignés des remèdes, ils les ignorent, et leur funeste métier les condamne au mal. Mais vous, vous demeurez dans l'officine même de la santé, vous êtes les dispensateurs des remèdes de l'âme, et non seulement vous vivez dans la corruption, mais vous la semez chez les bons. » Il disait encore que les courtisanes étaient moins criminelles à ses yeux que ces fausses sœurs qui se servaient du mot de virginité pour couvrir leur débauche. Telles étaient les énergies de discours par lesquelles, suivant Palladius, il essayait de faire rougir son clergé pour le ramener à une vie honnête. Ces livres, et principalement les deux traités dont j'ai parlé, nous donnent une idée plus complète de ce que devait être ces conférences si salutaires à la morale du temps et si curieuses pour l'histoire. Nous en extrairons quelques passages où Chrysostome met à nu les misères du prêtre et la dégradation de la femme sous les liens de cette sorte d'inceste qui portait sa peine avec lui. Par une audace que le but de ses tableaux absout et justifie, il introduit le lecteur dans le ménage même où cohabitent un clerc et une sœur agapète, et tour à tour, il examine ces deux hypothèses, si la femme associée est pauvre ou si elle est riche. « Entrons, dit-il, dans le logis où ils vivent ensemble et supposons d'abord que la fille soit pauvre. Pauvre, la voilà obligée de travailler de ses mains. Le prêtre est là près d'elle, leur appartement est commun, leur chambre commune, leurs meubles sont les mêmes. Eh bien, dites-le-moi, quel spectacle vous présentera la demeure d'un homme voué par état à la contemplation solitaire ? Des jupons de femme, des ceintures, des mitres accrochées aux murailles, dans la chambre une navette, des quenouilles, un fuseau, un métier à tisser, des corbeilles et tous les recoins des approvisionnements de laine ou de lin, accompagnés de peignes et de cardes. Voilà l'ornement, la décoration du domicile d'un prêtre. Les servantes ou les filles du voisinage y viennent travailler ou babiller avec la dame. Les gros rires éclatent, le prêtre prend part à leur gaieté, à leurs propos, parle laine, fuseau et chanvre, en un mot, se fait femme pour vivre avec elle. Quelquefois, les commerces querellent, le domestique manque de respect à la maîtresse, le prêtre accourt pour mettre le haut là. Oh, comme cette vie s'accorde bien avec les affaires du salut. Supposons maintenant que la sœur spirituelle soit riche. Ce seront d'autres conditions pour le prêtre, un autre spectacle dans sa demeure, une autre misère dans sa vie. Cette fille étant riche, il faut que rien ne lui manque, car les matrones du monde élégants et délicats sont moins exigeantes en commodité que ces vierges-là, et c'est au prêtre d'y pourvoir. Aussi, quel mouvement il se donne pour la contenter. Il court d'abord chez l'argentier, savoir si la vaisselle est prête, si le miroir de la dame est en état, si l'on aura tant au portant l'amphore au vin ou la fiole à l'huile. De l'argentier, il passe chez le parfumeur. Et en effet, ce genre de vierge est passionné par les onguents. Il les lui faut varier, cher. Le prêtre explique au marchand quels sont ceux que préfère la dame. Après le parfumeur, c'est le marchand d'étoffes, le fabricant de toiles et de tapis. Le prêtre va, vient, marchand, débat les prix, emploie toutes les ruses de l'acheteur en face du vendeur. Même visite au cordonnier. La journée du prêtre se passe ainsi, à circuler de boutique en boutique. L'âme du prêtre n'est plus à l'église, elle est à la foire. Mais voici la basilique qui s'ouvre. Que de profanation, que de nouveaux scandales nous y attendent. Le prêtre se tient à la porte jusqu'à l'arrivée de la dame et quand elle paraît, il la précède comme son eunuque. Lui fait faire place en bousculant la foule et recueille le long du chemin les sourires du public. Il arrive que loin d'en rougir comme il devrait, il en tire souvent vanité. Lorsqu'approche le redoutable moment des mystères, la dame y assiste, le prêtre tourne la tête vers elle, il semble la consulter du regard, et tout cela se passe en présence de Dieu et des fidèles. La manie de ces femmes est encore de se mêler de tout, elles tranchent dans les questions de l'Église, et sèment en tout lieu la discorde. Que de bonnes œuvres, que de saintes inspirations neutralisées à cause d'elles. Quelqu'un les a regardées de travers, aussitôt la colère plisse le front du prêtre, la rancune entre dans son cœur. « Oh, je vous en prie, mes frères, je vous en supplie à genoux, réveillons-nous de cette honteuse ébriété, reprenons possession de nous-mêmes, prêtres que nous sommes, et reconnaissons l'honneur que Dieu nous a fait en nous créant ses ministres. » Saint Paul disait, « Ne soyez pas esclaves des hommes. Moi, je vous dirai, cessons d'être esclaves de femmelettes qui nous entraînent avec elles à la perdition. » Le Christ veut que sa milice se recrutent de soldats vaillants, d'athlètes vigoureux, que la lutte laisse debout. Et il ne nous a pas munis des armes spirituelles pour que nous vivions serviteurs de filles misérables parmi les laines et les fuseaux. Non, notre mission est de combattre avec les pouvoirs du ciel, les puissances invisibles qui nous assiègent, de repousser les phalanges de l'esprit des ténèbres. C'est pour cette guerre que Dieu a ceint nos poitrines de la cuirasse de la justice, nos reins de la ceinture de la vérité, qu'il a mis sur nos têtes le baume du salut, à nos pieds la sandale des apôtres, et nous a dit « Partez, allez enseigner les nations. » Entendez-vous là-bas la trompette qui retentit ? L'ennemi donne l'assaut à notre ville et le clairon appelle ses défenseurs sur la brèche. Tout le monde accourt, sauf un soldat armé qui se renferme dans sa maison et dépose son glaive à terre pour rester assis aux genoux d'une femme. Est-ce que vous le souffririez ? Est-ce que vous n'enfoncerez pas la porte pour le percer vous-même de vos épées ? Eh bien, voilà ce que j'essaye vis-à-vis de vous. Il faut vous hâter, car le contact des femmes est féminin. Le lion le plus superbe et le plus farouche, quand on lui rase la crinière, quand on lui arrache les dents, quand on lui coupe les ongles, n'est plus qu'un objet honteux et ridicule. Un enfant le mène, et il ne lui reste plus que d'inutiles rugissements. Le prêtre, revêtu d'une force spirituelle, n'est plus qu'une femme quand il a vécu avec des femmes. Et que sera-ce si le prêtre s'est laissé prendre à l'amour de cette fille qu'il a jour et nuit devant les yeux, jour et nuit à ses côtés ? S'il devient jaloux, s'il souffre d'une passion combattue par le devoir ? Que sera-ce encore si le devoir cède à la passion ? Car l'auteur ne recule devant aucune des hypothèses qui se présentent dans son sujet. Suivant son expression, il déchire tous les voiles. Il perce à jour toutes les cloisons. Il va jusqu'à introduire même la coucheuse dans ce ménage d'un prêtre et d'une vierge. Tel est généralement le caractère des enseignements de Chrysostome. Sa riche imagination savait donner la vie et l'action aux préceptes les plus austères. Il traînait les vices au grand jour, sous une complète nudité, pour les rendre hideux ou ridicules. La seconde des plaies qui infectait le clergé Constantinople. La seconde des plaies qui infectait le clergé constantinopolitain était la gourmandise, la sensualité de la table, la passion des festins, la gueule, en un mot, comme la langue latine dit énergiquement. Prêtres et diacres menaient dans cette ville de luxe et de plaisir la vie la plus molle et la plus somptueuse. Ils ressemblaient pour la plupart à cet ecclésiastique romain dont parle saint Jérôme, qui, né de paysan et nourri dans son village de bouillie noire et de millet, avait acquis sous l'habit clérical le talent de deviner quelle était la race de telle Loire, si telle faisant venait de Colchide ou de l'oasis d'Égypte, tel poisson de l'océan Britannique ou de la mer Caspienne. Ces besoins immodérés qu'entraîne la gourmandise donnaient naissance à un troisième fléau, l'avarice, dont nous allons parler amplement. Car s'il fallait beaucoup d'argent pour entretenir dans sa maison la table du prêtre et du diacre, au dehors, ses habitudes sensuelles entraînaient les clercs à fréquenter les tables des grands. Chrysostome nous les peint circulant de maison en maison chez les riches pour quêter un repas et avilissant par de basses complaisances leur caractère sacré. Dans ses accès de sainte colère, il les traitait de parasites et de sycophantes de théâtre, leur proposant pour exemple son austère sobriété. Ils lui répondirent par la calomnie en inventant ces orgies de cyclopes. L'avarice était la troisième et la plus mortelle plaie de ce clergé dissolu. Quand les gains licites de l'Église ne suffisaient pas aux besoins des clercs et de leur ménage spirituel, ce qui était un cas fort ordinaire, il faisait main basse sur son patrimoine qu'on usurpait et pillait à qui mieux mieux. Les ecclésiastiques, les évêques eux-mêmes, n'y mettaient pas grande façon, habitués qu'ils étaient à considérer les biens de l'Église comme les leurs propres. L'histoire des conciles est remplie à ce sujet des accusations et des faits les plus graves. Après l'emploi frauduleux du domaine ecclésiastique, venaient les captations, les donations surprises, les legs arrachés aux familles, enfin le détournement des deniers confiés aux prêtres pour les pauvres. Ce dernier crime surtout était irrémissible aux yeux de Chrysostome. Il le regardait comme un sacrilège, un attentat contre Dieu, car voler les pauvres, disait-il, c'est voler Jésus-Christ. Jérôme, signalant le même vice dans le clergé romain, s'écriait avec une admirable éloquence « Les lois des empereurs catholiques nous ont frappés d'incapacité à recevoir des donations et des legs. Les prêtres des idoles, les prostituées, les cochers du cirque peuvent en recevoir. Nous, prêtres chrétiens, nous ne le pouvons pas. Je ne m'en plains point pour l'Église, mais je rougis que nous l'ayons mérité. » Chrysostome alla plus loin. Il conseilla aux riches charitables de distribuer eux-mêmes leurs aumônes sans les faire passer par les mains des clercs, et l'opulente diaconesse Olympias, sa chère dame et vénérée fille, éparpillant son immense fortune en prodigalité à des ecclésiastiques et à des évêques, il l'en réprimanda hautement. Cet acte courageux excita presque un soulèvement dans le corps sacerdotal, même parmi ses chefs. Et comme c'était là la source de tout mal, la métropole des vices, suivant le mot de Palladius, tous les abus se coalisèrent pour se venger. La vengeance fut aussi cruelle qu'inattendue, et qui le croirait? Cet homme austère, qui prêchait avec tant d'éloquence le désintéressement et la pauvreté, on l'accusa lui-même d'avarice et de rapine. Succédant à des prélats magnifiques, à Nectaire, par exemple, qui avait apporté sur la chaire épiscopale les habitudes et le luxe d'un préfet de la ville, Chrysostome avait mis son orgueil à retrancher tout ce faste dès son début. Plus d'étoffe de soie sur sa personne, plus de brocart d'or et de pourpre dans son cortège. Les étoffes les plus communes pour les siens et pour lui, quelque chose comme un habit de moine. Voilà le coup de théâtre dont il surprit Constantinople. On ne manqua pas de crier à la rusticité, à l'avarice sordide. On le prétendit que s'il supprimait à l'égard des autres les libéralités de sa chère diaconesse Olympias, c'était pour se les appliquer à lui seul. Il voulut mettre dans la décoration de ses églises la même simplicité théâtrale que sur sa personne et celle de ses suivants. Les ornements de soie et d'or qui paraient à son arrivée les autels des basiliques, les tentures de pourpre, les riches habits sacerdotaux, il ordonna de les vendre. Des revêtements de marbre magnifiques et des colonnes monolithiques que Nectaire avait destinées à l'embellissement de l'église d'Anastasie et qui gisaient à terre attendant l'architecte furent aussi mis à l'encan. Il n'y eut pas jusqu'à des vases sacrés d'un prix énorme qu'il ne fit briser et vendre, ne voulant garder que les plus simples. Enfin, un petit bien rural dont la conservation dans le patrimoine ecclésiastique lui paraissait difficile et coûteuse, il l'aliéna pareillement. La réforme du personnel dans le palais épiscopal marchait de pair avec celle du matériel dans l'église. Il avait supprimé l'économe, disant que ces gens-là ne savaient que voler, et que lorsqu'ils étaient prêtres, ils employaient à faire des comptes de cuisine un temps qu'ils devaient aux œuvres de Dieu. J'ai parlé plus haut de la parcimonie de sa table, entretenue par Olympias, et de l'absence de toute réception officielle à l'archevêché. On fit de tout cela autant de chefs d'accusation pour le convaincre de cupidité et de vol. Cet argent du patrimoine ecclésiastique, ce produit des vases sacrés, des étoffes, des tapis, des ornements, des marbres, de tous les objets par lui détournés, qu'en avait-il fait? Lui qui affichait la pauvreté d'un anachorète, qui se faisait nourrir par les mains d'Olympias, qui avait retranché de sa maison épiscopale non seulement l'appareil nécessaire à la vie décente d'un évêque, mais jusqu'à l'hospitalité qui est pour lui un devoir rigoureux vis-à-vis de ses collègues et de ses ouailles, que faisait-il de ses économies? Il les enfouissait dans quelque coin de son évêché, où il entassait denier par denier des trésors immenses. Je m'étends sur ces imputations parce qu'elles figurèrent en première ligne dans le procès que son clergé lui intenta devant deux conciles. Parties de ces prêtres même, elles arrivaient avec une apparence de vérité à la cour et dans les conciliabules de ses ennemis. On avait su pourtant bientôt, et cela surtout qui pouvait observer l'archevêque de près, que personne au monde n'était plus désintéressé et que, dans cette simplicité dont il faisait montre, on n'avait à lui reprocher que l'ostentation. Nul évêque, à aucune époque, ne fut plus charitable que Chrysostome. Sans doute, il eut des travers. Il eut même des vices qui firent son malheur. L'orgueil, le ressentiment, l'amour effréné de la domination, mais jamais rien de bas ne monta jusqu'à son cœur. Le produit de ses ventes qu'on lui imputait à crime, il l'employait non seulement à des aumônes dont il se faisait lui-même le juge, mais à des fondations charitables au vu et su de la ville entière. Il établit à Constantinople, de ses deniers épiscopaux, un hôpital pour les malades, et un autre pour les étrangers. Il incitait sans cesse par ses sermons, par ses exhortations privées, par ses exemples, les fidèles riches à construire des lieux d'assistance. Il eût voulu que la ville de Constantinople ne fût qu'un grand hospice et que chacun eût dans sa maison une chambre réservée pour l'étranger en passage ou pour l'indigent. Nous avons encore un sermon où il adressait à son auditoire ses touchantes paroles. « Le Christ est à votre porte, ouvrez-lui, vous lui devez votre plus bel appartement, et il ne vous demande que le moindre coin. Placez-le où vous voudrez, dans vos arrière-chambres avec vos serviteurs, dans vos celliers, dans vos écuries, avec vos ânes et vos chevaux, mais logez-le. » La réforme des clercs, pour être complète, devait s'étendre sur les diaconesses qui faisaient partie du clergé. Œuvre délicate, car ces femmes étaient une sorte de puissance dans l'Église. Chrysostome accomplit ce devoir avec sa décision ordinaire, mais aussi avec la rudesse qui gâtait parfois ses meilleures actions. La plupart des diaconesses vivaient très mondainement, accommodant autant qu'elles pouvaient Dieu et Baal. Plusieurs même déshonoraient le sanctuaire par des galanteries scandaleuses. Après avoir recueilli des renseignements particuliers sur chacune d'elles, le terrible juge les fit comparaître devant son tribunal pour entendre leur arrêt. Il licencia les plus compromises en leur disant « Je vous rends votre liberté, remariez-vous, vous ferez bien. » C'était le précepte de saint Paul qui disait aussi « Mieux vaut se marier que brûler. » À celles pour lesquelles il y avait encore rémission, il imposa une pénitence sévère et des règles de discipline tout à fait monastiques. Il ne parut pas que celles-ci lui fussent beaucoup plus reconnaissantes que les premières. Tel était le début de son épiscopat. La situation de Chrysostome en face de l'Église. elle ne fit que s'empirer quand les rancunes trouvèrent un point d'appui dans l'impératrice avec l'espoir d'un prochain affranchissement. Il nous reste à voir ce qu'elle était en face des populations et particulièrement du troupeau chrétien de la seconde Rome qui, au rebours de la première, ne comptait guère de familles élevées qui ne fussent de la religion de l'empereur. Quant aux païens, ils observaient curieusement le spectacle de cette lutte commençante. Assez peu portés pour Eudoxie, mais plus malveillants encore pour l'archevêque, dont l'humeur acerbe et hautaine les blessait, ils étaient tout disposés à prendre parti contre lui dans des questions qui leur étaient d'ailleurs étrangères, et c'est ce qu'ils ont fait dans leurs histoires. Chrysostome, et c'était le fond de son caractère, mêlé à un vif sentiment de charité évangélique, des élans involontaires de révolte contre l'inégalité sociale. Il aimait le peuple d'un amour de prêtre, il l'aimait aussi d'un amour de tribun. Sans voir la richesse d'un mauvais œil, il ne la comprenait que comme un moyen que Dieu nous donne pour le remplacer dans la distribution des biens qui viennent de lui. Le riche, insensible aux souffrances du pauvre, lui semblait un impie, un sacrilège qui volait Dieu et l'étalage des plaisirs, le faste insolent de celui qui a, vis-à-vis de celui qui n'a pas, un manquement aux lois divines et humaines. Il mettait la vanité des riches à côté de la dureté du cœur et poursuivait l'une comme l'autre de ses paroles les plus amères. C'est ce que son biographe appelait « plonger le rasoir dans le cœur des riches pour en extirper l'apostume de l'orgueil ». La formidable question du pauvre et du riche, du mauvais riche du moins, de celui qui ne jette pas à l'hasard les miettes de sa table, revenait perpétuellement dans ses sermons. Non seulement l'usure lui était odieuse, mais il lançait l'anathème sur ces prodigalités inutiles qui dispersent dans les fêtes, dans les palais, sur les théâtres, ce que réclame la faim des pauvres. Depuis Cassius, attaquant devant la plèbe de Rome les usures des patriciens, et depuis les Gracques prêchant la loi agraire, pareils accents n'avaient point frappé des oreilles humaines. Sans doute il était de l'essence du christianisme, religion des humbles et des petits, de protéger le pauvre et de recommander la charité aux puissants. Et c'est une des gloires de l'Église d'en avoir fait un lieu commun de ses prédications. Mais celle de Jean Chrysostome avait un caractère bien autrement incisif et marqué que les formules ordinaires de la charité évangélique. Ses contemporains en jugèrent ainsi. Et encore aujourd'hui, plusieurs de ses sermons nous étonnent par leur audace. En même temps qu'il déployait contre les classes élevées de la société une sévérité parfois excessive, il dépassait peut-être la mesure dans l'expression de son affection pour les classes populaires. Il ne se contentait pas d'aimer le peuple, il l'admirait, il lui croyait des vertus, il lui supposait une sorte de puissance morale particulière. Un tremblement de terre ayant ébranlé Constantinople jusque dans ses fondements, puis s'étant apaisé tout à coup, Chrysostome dit en chair que les vices des riches avaient amené ce péril en excitant la colère de Dieu, mais que les prières des pauvres l'avaient détourné. Un autre jour, il disait « Ce qui fait la gloire de ma ville, ce n'est pas d'avoir un sénat, des consuls et autre chose de cette sorte, c'est d'avoir un peuple fidèle. Entrez dans l'église, vous y verrez notre vraie splendeur, les pauvres, attentifs à la parole de Dieu, en sentinelle dans le lieu saint depuis le milieu de la nuit jusqu'au jour, sans que le sommeil ou les nécessités de l'indigence puissent les enchasser. » Il ajoutait en désignant les riches. « Je voudrais bien savoir où sont maintenant ceux qui nous troublaient l'autre jour, car leur assistance en ce lieu était pour nous une sorte d'incommodité et de trouble. Je voudrais bien savoir ce qu'ils font et quelle meilleure occupation ils peuvent avoir que de venir ici comme les autres. Mais je sais bien qu'ils n'en ont aucune et que leur absence n'est que l'effet de leur faste et de leur superbe. Pourtant, dites-moi, je vous prie, quel sujet vous avez de vous estimer si fort et de croire que vous nous obligez beaucoup lorsque vous venez écouter ici les vérités nécessaires à votre salut? Pourquoi donc étaler tant d'arrogance? Est-ce parce que vous êtes riche et vêtu de soie? Mais ne devriez-vous pas considérer que ces étoffes sont l'ouvrage des vers qui les ont filées et l'invention des barbares qui les ont tissées? Ne devriez-vous pas considérer que les courtisanes, les hommes infâmes voués à toutes les abominations, des voleurs et jusqu'à des violateurs de tombeaux, ont tout aussi bien que vous des vêtements de soie? Descendez donc des hauteurs fastueuses où vous avez fait monter l'enflure du cœur et réfléchissez à votre bassesse, au néant de votre nature. Si fiers que vous soyez, vous n'êtes pourtant que des esclaves, les esclaves de vos vices. Vous ressemblez à quelqu'un qui serait battu tous les jours par ses valets dans sa maison et se glorifierait en marchant sur la place publique d'avoir une foule d'hommes sous son obéissance et de commander à ses concitoyens. Je ne vous souhaite que de tenir de Dieu le droit de leur commander et même de vous attribuer raisonnablement quelque sorte d'égalité avec eux. Il suffit d'ouvrir les œuvres de Chrysostome pour voir avec quelle hardiesse de langage il attaquait parfois, à propos du mauvais riche, cette inégalité des conditions et le fondement de la société civile. On l'entendit un jour raconter en chaire l'anecdote suivante. Le territoire de notre ville, disait-il, fut une fois frappé d'une grande sécheresse. Les grains ensemencés ne pouvaient germer. Chacun suppliait Dieu de détourner le mal et de dissiper l'angoisse publique. Mais le mal continuait, et suivant l'antique prédiction de Moïse, un ciel d'airain restait suspendu, immobile sur nos têtes. La famine approchait, on la voyait, on l'attendait, et avec elle la plus cruelle des morts. Le Dieu miséricordieux eut pitié de la ville. Tout à coup le ciel d'airain s'amollit, des nuages s'amoncelèrent, et s'entr'ouvrant soudain, laissèrent tomber la pluie, avec tant d'abondance qu'à sa vue, toutes les poitrines haletaient de joie. Ivres de bonheur, les habitants se mirent à courir les rues comme des échappés de la mort. C'était une fête générale, des transports d'allégresse inexprimable. Au milieu de toutes ces joies, un homme cheminait triste, abattu, et comme exténué sous le poids de quelques grandes douleurs. C'était un riche, un des plus opulents de la cité, et quand on lui demanda pourquoi seul il était triste dans le délire commun, il ne put garder au fond de son âme le sujet de sa peine. Et de même qu'une maladie intérieure déborde et éclate au dehors dans le paroxysme de sa violence, la maladie de cet homme éclata hideuse à tous les yeux. « J'avais amassé, dit-il, 10 000 mesures de blé, et je ne sais pas ce que j'en ferai à cette heure. » Voilà quel était le sujet de son angoisse. Dites-moi, je vous prie, le bonheur de ces riches consistait-il à pouvoir tenir de tels discours pour lesquels il méritait d'être lapidé comme plus inhumain que les bêtes féroces et comme un ennemi public? Que fais-tu, misérable? Tu t'affliges de ce que tout le monde n'est pas ruiné? De ce que tu as perdu l'occasion d'amasser l'or que tu rêvais? Ne sais-tu pas ce que Salomon a dit autrefois? Celui qui fait renchérir le blé est maudit du peuple. Tu cours les rues comme l'ennemi des biens de la terre, comme un impie en guerre avec la libéralité du Dieu, de tous les hommes, comme un serviteur et un esclave de Mammon. Ne fallait-il pas arracher ta funeste langue? Ne fallait-il pas étouffer ce cœur qui avait enfanté de si abominables pensées? Ah, vous le voyez, la richesse ne permet pas aux hommes de rester hommes. Elle en fait des bêtes et des démons. Car qu'y a-t-il de plus odieux qu'un homme riche qui demande à Dieu la famine pour augmenter son or? Cette passion de l'or produit en effet tout contraire à ses désirs. Au lieu de se réjouir de ce qu'il possède, une abondance extraordinaire de blé, il tire de cette abondance même un sujet de douleur. C'est sa richesse qui fait son affliction. Si vous voyiez un chef de brigand battre les routes, dresser des embûches aux passants, ravir ce qu'il trouve dans les champs, enfouir l'or et l'argent dans des cavernes et dans des fosses, enlever les troupeaux, les esclaves, les meubles des maisons, le proclameriez-vous heureux à cause de ces richesses qu'il entasse, ou malheureux à cause du supplice qu'il attend? Eh bien, voici le sort des riches et des avares. Ce sont des voleurs qui assiègent les routes, volent les passants, enferment dans leurs champs comme dans des cavernes et des fosses le bien des autres qu'ils ont accumulé. Le voleur peut éviter la peine en s'échappant des mains des hommes. Le riche ne trompera pas celle de Dieu. Le riche sera plongé dans l'enfer, Lazare reposera dans le sein d'Abraham. La Sainte Écriture nous l'enseigne, on ne vole pas seulement en enlevant le bien d'autrui, on vole en ne distribuant pas ce qu'on possède. Voici le portrait du mauvais riche. Quoi de plus impudent, de plus éhonté, de plus comparable à la face d'un chien que la face de ce misérable? Et encore, un chien est-il plus capable de honte qu'un avare qui arrache le bien de tout le monde? Ces mains qui salissent tout, cette bouche qui ne se rassasie jamais, sont ce qu'on peut imaginer de plus impur. Le visage d'un mauvais riche, les yeux d'un mauvais riche, ne sont pas le visage et les yeux d'un homme. Cet être ne voit pas les hommes comme des hommes, le ciel comme un ciel. Il n'élève pas son regard à Dieu comme au souverain Seigneur de toutes choses. Toutes choses pour lui ne sont que de l'or et de l'argent. Quand un regard d'homme tombe sur un pauvre dans l'affliction, le cœur se trouble, des larmes s'échappent des yeux, on sent en soi-même les misères qu'on aperçoit. Mais quand ce riche regarde un pauvre, il n'en devient que plus cruel et son inhumanité grandit. Un homme ne voit pas le bien des autres comme son propre bien. Il voit son propre bien comme celui des autres. Il se dépouille pour ceux qui ont besoin. Un riche n'a rien s'il n'a pas tout, car ce n'est point un homme. Son visage même atteste la bestialité de sa nature. Mais les bêtes sont moins impitoyables, leurs mains sont moins ravissantes, leurs ongles moins déchirants. Quand l'ours et le loup se sont rassasiés, ils cessent de courir à la proie. Le riche ne se rassasie jamais. Dieu nous a donné des mains pour soutenir notre semblable qui tombe, et non pour lui tendre des pièges et le faire choir. Si c'est là l'usage que nous en faisons, mieux vaudrait que nous n'en eussions point ou qu'on ne les coupât par pitié. Vous êtes touché de compassion quand vous voyez une bête déchirer une brebis, et quand vous déchirez vous-même un de vos semblables qui vous est uni par la nature, vous ne croyez rien faire d'indigne, et vous voulez encore passer pour un homme. C'est la miséricorde qui fait l'homme, c'est la cruauté qui fait la bête. L'homme soulage, la bête dévore, et encore, la bouche de l'avare est plus cruelle que celle de la bête, car sa parole seule donne la mort. Le pauvre, au contraire, est aussi admirable, aussi magnanime, aussi généreux que le riche est lâche et cruel. Il a la paix de l'âme et le regard de Dieu. Le riche a déjà l'enfer sur la terre. Le pauvre débarrassé des attaches qui font du riche un esclave plutôt qu'un maître, est un lion qui souffle le feu par les narines. Élevé au-dessus des choses du monde, il n'est rien qu'il n'entreprenne et n'exécute pour le service de l'Église. Fallut-il s'exposer aux dernières nécessités et supporter la persécution pour le Christ qui l'empêche de remplir son devoir de chrétien fidèle? Il a méprisé la vie. Que peut-il craindre qu'on lui enlève? Les richesses? Il n'a rien. Son pays? La terre entière est sa patrie. Ses clients, son cortège, ses délices? Il ne connaît rien de tout cela. Sa société est avec le ciel, ses aspirations au bonheur dans une autre vie. Quand il faudra perdre cette existence périssable, quand il faudra verser son sang, que la persécution vienne, il est prêt. Et voilà ce qui le rend plus puissant que les peuples eux-mêmes et que tous les hommes réunis. Et pour que vous sachiez que ce discours n'est point entaché de flatterie, je vais vous montrer comment le pauvre seul est libre. Remontez avec moi dans l'histoire. Voici l'exécrable tyran Hérode. Combien n'existait-il pas dans son temps d'hommes puissants et riches et qui cependant osa lui tenir tête? Qui se cuirassa de courage pour venir châtier par ses paroles ce contempteur des lois morales, ce violateur des commandements de Dieu? Un riche? Oh non, un pauvre, un indigent qui n'avait ni lit, ni table, ni toit pour l'abriter. Jean, cet illustre citoyen du désert, fut, je ne dis pas le premier, mais le seul qui, abordant le tyran dans son palais, lui dit « Tu vis en état d'inceste avec cette femme, et Dieu te condamne par ma voix. » Avant lui, le grand Élie, qui possédait pour tout bien une peau de mouton, fut le seul à reprendre Achab, ce roi impie et criminel. Et qui peut donc donner cette hardiesse dans les périls, cette sainte résolution qui rend l'homme invincible devant le mal parce que dédaigneux de la vie présente? Il ne fait nul état de la mort. Un homme, dans une disposition si généreuse parce qu'il n'a rien et ne veut rien, peut rendre plus de service à l'Église que les riches, les magistrats et les rois. Les riches et les rois ne sont rien que par leur puissance terrestre, et cette puissance est limitée. Un homme résolu qui brave la mort peut tout ce qu'il veut d'utile, d'extraordinaire, de grand, et comme le prix de l'or le cède à celui du sang, l'homme qui pense ainsi est incomparablement plus noble et plus grand que tous les riches ensemble. Personne ne se trompe pas sur la portée de ces paroles, dont l'allusion était claire. Jean admonestant Hérode, Élie condamnant les crimes d'Achab et les impiétés de Jézabel, c'était lui-même, et il avait ce courage parce qu'il était pauvre. On peut se figurer l'effet de pareils discours descendant d'une bouche éloquente sur les masses populaires. Quand l'archevêque devait prêcher, principalement sur ces matières, les églises devenaient trop petites par le concours des auditeurs et une telle presse se faisait autour de sa chaire épiscopale qu'on y courait risque d'être étouffé. Cette raison l'engagea à la transporter, ainsi que je l'ai dit, des degrés de l'abside sur l'ambon, d'où la voie s'étendait partout des galeries à la nef. Plusieurs notaires et tachygraphes recueillez ces discours, que des applaudissements enthousiastes interrompaient fréquemment, et il se plaignait de ces marques d'approbation mondaine qui changeaient la maison de Dieu en théâtre. Les acclamations redoublaient au sein de ces foules immenses. Alors il se montrait ému malgré lui, et des larmes d'attendrissement humectaient ses yeux. Hors de l'église, la multitude lui faisait cortège. Elle prenait en main sa sauvegarde, et plus d'une fois elle veilla aux portes de sa demeure quand elle crut sa vie menacée. Ses allocutions au peuple, dans des circonstances où il voulait le remercier de son amour, abondent en expressions semblables à celles-ci. « Je vous aime comme vous m'aimez. Que serais-je sans vous ? Vous êtes mon père, vous êtes ma mère, mes frères, mes enfants, vous m'êtes tout au monde. Je n'ai joie ni douleur qui ne soit vôtre, et quand un de vous périt, je péris. » Ce peuple ardent, enivré de sa vue et frémissant sous sa parole, n'était pourtant pas seul à se presser pour l'entendre. Il se mêlait à ses rangs des curieux, des espions, des ennemis qui couraient colporter les moindres allusions en les envenimant. La cour le traitait de factieux et l'opinion se propageait dans le monde élégant de Constantinople que l'archevêque voulait la ruine des riches. Ces scènes sont bien loin par le temps de celles de Saturninus et des Gracques. Au fond, ce sont les mêmes. La question du paupérisme agitera perpétuellement la société humaine jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un remède que nul n'aperçoit. Le christianisme avait imaginé un palliatif par la charité, mais ce palliatif était un privilège des grandes âmes, et la société corrompue de Constantinople n'en comptait guère. De là cette puissance tribunienne de Chrysostome, cet appel à Dieu dont il s'arma contre l'insensibilité et l'aveuglement des riches. Les temps changent. Les siècles, par le renouvellement des doctrines, amènent des formules nouvelles. Mais les besoins sociaux changent peu. Les passions, les devoirs, les périls restent les mêmes. Si la formule d'une meilleure répartition du bien-être matériel entre les diverses classes de la société n'était plus ce qu'elles avaient été dans les luttes des patriciens et des plébéiens au temps de Cassius et des Gracques, ni les besoins ni les passions n'étaient éteints. Seulement Cassius et les Gracques auraient eu peine à reconnaître ici ces masses qu'ils agitaient et dont ils avaient été les idoles. Une église était aujourd'hui le forum, une chaire la tribune aux harangues, un évêque le tribun, et le dévouement du peuple pour ce patron parlant au nom de la charité n'était pas moindre qu'il ne l'avait été jadis pour ceux qui lui parlaient au nom de l'égalité des droits dans la République. Toutefois, ce dévouement ardent, absolu, ne servit pas plus aux tribuns chrétiens qu'aux prédicateurs des lois agraires. Un des chefs d'accusation portés contre Chrysostome, devant les conciles qui le condamnèrent, fut de soulever le peuple, à quoi les rancunes de la cour ajoutèrent le crime de lèse-majesté. Chapitre 3. Il ne faut pas prendre à la lettre ce mot d'un contemporain que Chrysostome avait tout le clergé de Constantinople contre lui. Il se trouva plus d'injustes dans Sodome, mais c'était pour la plupart des gens timides qu'effarouchaient les clameurs du monde et dont la persécution seule dévoila l'héroïque fidélité. Dans le nombre, l'histoire nous signale le diacre Héraclide, attaché à la personne de l'archevêque et dont nous aurons bientôt à parler. Proclus, introducteur aux audiences épiscopales. Philippe, l'ascète, maître des écoles, comme on disait, c'est-à-dire intendant des établissements où s'élevaient les jeunes clercs. Le saint prêtre Germain, son compagnon inséparable dans la mauvaise fortune comme dans la bonne. Le très savant diacre et très obscur historien Philippe de Side et d'autres orientaux encore. Il s'y joignait un jeune homme sorti des couvents de Syrie et destiné à jeter un grand éclat en Occident. C'était le diacre Cassien qui, venu à Constantinople pour écouter Chrysostome, s'était dévoué à son service et formé par les leçons d'un tel maître devait fonder plus tard à Marseille le célèbre monastère de Saint-Victor. C'étaient là de vrais amis. En communauté d'austérité et de doctrine avec l'archevêque, en communauté non moins étroite de sentiments, mais qui ne l'approuvait pas sans restriction. Il le blâmait parfois avec sincérité, cherchant à calmer son humeur militante et à conjurer ses colères, sans grand succès néanmoins, car l'emportement du zèle était dans la nature de Chrysostome, qui se fut méprisé de ne point sacrifier toute considération de prudence à ce qu'il croyait le devoir. Ses sages conseillers n'avaient donc pas toujours son oreille. Ceux qui l'écoutaient étaient les conseillers violents, qui, affectant de se modeler sur lui, applaudissaient à ses actes les plus téméraires et caressaient ses défauts en les exagérant encore. L'histoire nous nomme deux de ses faux amis, les diacres Sérapion et Tigrius, auxquels elle attribue une large part dans les fautes et les malheurs de ce superbe et inflexible esprit. Sérapion était un Égyptien, en qui se résumaient les vices que l'histoire prête à sa nation, la vanité, l'irréflexion, l'arrogance. Violent lui-même jusqu'à l'excès, il entretenait Chrysostome dans la pensée que c'est par la violence qu'il faut imposer le bien à des natures rétives, et cette flatterie réussissait toujours. Chrysostome, du moins, est ému dans ses actions par un sentiment respectable et sincère. Sérapion savait mêler l'intérêt personnel et l'intrigue aux démonstrations d'un faux zèle, car on le vit s'élever tout à coup et presque sans transition du diaconat à la prêtrise, puis à l'épiscopat. Grâce à cette communauté de défauts qui lui livrait l'archevêque, il parvint à le maîtriser totalement, écartant de lui par des ombrages les bons serviteurs et les gens sensés, et se portant pour son seul confident et son guide dans les circonstances délicates, sauf à gâter par les insolences du valet les intérêts déjà compromis du maître. Nous le retrouverons avec ce caractère et cette fatale influence sur la scène de nos récits. Pour le moment, nous citerons un fait antérieur au temps où il commence, mais qui donne une idée du mal que les témérités de cet homme durent causer aux affaires de l'Église. Chrysostome présidait un jour dans la basilique une assemblée de son clergé où se discutait je ne sais quelle question irritante de réforme. La voix du prélat avait été accueillie par des murmures, et la colère lui montait au visage. Quand Sérapion, se levant de sa place, s'approcha de lui et lui dit d'un ton à être entendu de ceux qui l'entouraient « Que tardes-tu, évêque? Prends ton bâton spirituel et brise-moi tous ces gens-là du même coup !» Tel était le conseiller le plus écouté de Chrysostome, et souvent son porte-parole, soit près de ses clercs, soit près des évêques, ses collègues. Le diacre Tigrius ne valait pas mieux. Un concile le dénonça comme un des mauvais génies qui troublèrent l'Église d'Orient en poussant l'archevêque à des résolutions excessives. À ce tableau un peu triste de l'entourage de Chrysostome, nous en opposerons un plus consolant, celui de ses amis, grandes dames et diaconesses pour la plupart, qui furent pour lui non seulement des conseillères de paix, mais des appuis inébranlables dans la persécution et des compagnes de martyrs. Quatre surtout se distinguèrent par l'éminence de leur mérite et la solidité de leur dévouement. C'était Salvina, Empructé, Pantalia et Olympias, non vénérés par l'Église et enregistrés avec respect par l'histoire. Résumé ici ce que l'on sait d'elle, ce sera élucidé peut-être un point historique curieux, celui qui concerne le corps des diaconesses, si puissant au IVe et Ve siècle de notre ère. On y verra dans quelle classe de la société elles se recrutaient souvent, quelles circonstances pouvaient déterminer leur vocation et comment il se faisait qu'à Constantinople et à Rome, elles acquéraient parfois l'importance de personnages politiques. Salvina, maure de naissance et descendante des anciens rois de Numidie, était fille de cet affreux tyran Gildon, qui après avoir rempli de rapines et de sang l'Afrique romaine, dont Théodose l'avait fait gouverneur, finit par rompre ses liens de sujétion et se séparer de l'Empire. Par une précaution dont Rome usait parfois envers ses officiers barbares, devenus suspects, Théodose s'était fait livrer Salvina, encore adolescente, pour la garder comme otage à sa cour, l'élever à la romaine et lui procurer un mariage patricien qui garantit la fidélité de son père. Théodose, en effet, ayant de grandes guerres à soutenir en Occident, la conservation de l'Africaine était du plus haut intérêt pour sa cause, car l'Afrique, on le sait, était le grenier de l'Italie. Salvina reçut donc à la cour d'Orient l'éducation d'une grande dame romaine, et quand elle fut en âge de se marier, l'empereur lui donna un époux de sa famille, le propre neveu de l'impératrice sa femme, Nébridius. Il croyait avoir assez fait pour s'attacher le barbare dont il redoutait l'inconstance, mais cette alliance avec la maison qui gouvernait le monde ne rendit Gildon ni plus civilisé ni plus fidèle. Le grand empereur avait à peine fermé les yeux que Gildon levait le masque et, sous le faux prétexte de faire passer l'Afrique du domaine occidental au domaine oriental, suivant le désir d'Arcadius, il fit égorger les colons romains et se déclara ennemi de l'Empire. En même temps qu'il secouait les nœuds de la romanité, comme on disait alors, il brisait aussi ceux de l'Église, devenait persécuteur et païen, et s'abandonnait à tout ce qu'il y avait de dépravation et de cruauté dans les instincts sauvages de sa race. Par un contraste curieux, la douce fille de ce païen devenait à la cour des princes d'Orient une chrétienne fervente et une chaste épouse, et lorsqu'arriva la mort de Nébridius, qui vécut peu, l'héritière des Massinissa et des Jugurtha ne rêva pas de plus grand honneur que d'être diaconesse à Constantinople en faisant vœu de viduité perpétuelle. Ni Chrysostome ni Jérôme ne furent étrangers au succès de cette vocation sur laquelle la chrétienté fixait tout entière les yeux. Jérôme lui envoya de sa grotte de Bethléem une éloquente exhortation et Chrysostome composa pour elle un traité intitulé « À une jeune veuve » dans lequel il exalte à la fois la gloire de son alliance avec les maîtres de l'univers et l'avantage d'être appelée à un tranquille bonheur que ses augustes parents ne connaissaient guère. Salvina, diaconesse, sans cesser d'être une très grande dame, devint la protectrice des églises orientales à la cour d'Arcadius. On s'adressait à elle, de tous les coins de l'Empire, comme à une personne très puissante, près de l'empereur et de l'impératrice. Son attachement à Chrysostome changea tout cela. Empructée et Pentadia, occupées dans un rang inférieur à celui de Salvina, une place honorée parmi les matrones. La vie de Pentadia avait été pleine d'agitation et d'angoisse. Femme du consul Timasius, une des plus nobles victimes de l'eunuque Eutrope, qui le fit reléguer dans l'oasis d'Égypte sous une fausse accusation de lèse-majesté, elle avait été englobée dans le désastre de son mari, condamnée elle-même à la relégation et obligée de se cacher pour échapper au plus affreux sort. Cette prison de l'oasis d'Égypte avait pour mur et pour garde une zone de sable brûlant infranchissable. L'exilé essaya pourtant de la franchir avec l'aide d'une caravane de marchands arabes et, soit qu'il fût tombé dans une embûche dressée par l'eunuque, soit qu'il restât englouti sous cette mer aérienne que les vents du désert soulèvent sur leur passage, il disparut sans qu'on pût jamais retrouver sa trace. Sa femme, que traquaient les espions de Trope, après avoir fui de retraite en retraite, se voyant sur le point d'être découverte, se réfugia dans une des églises de Constantinople sous la protection du droit d'asile dont la loi avait doté les lieux de réunion chrétienne. Mais l'eunuque fit forcer, pour la prendre, les clôtures de la basilique et violer l'immunité du sanctuaire. Ce fut le début de la terrible tragédie dont la mort du ministre fut le dénouement. L'archevêque défendit le privilège de son église, il prit fit et cause pour Pintadia, la réclama au nom de l'hospitalité de Dieu même et finit par sauver sa tête. Pintadia, reconnaissante, vint se fouer à l'église qui avait été son refuge et à l'évêque qui avait été son sauveur. La fortune changeant, la protégée put devenir protectrice. Chrysostome lui écrivait au jour de ses propres adversités « Tu as su réunir sur ton front toutes les couronnes. Tu es un réconfort pour tes concitoyens dans la peine, un port de refuge aux malheureux contre les flots de la persécution. » Nous ne connaissons en Pructé que de nom, mais l'affection que semble lui porter Chrysostome nous montre assez qu'elle était une digne compagne de Pantadia. La gloire du corps des diaconesses n'appartenait point néanmoins à ces pieuses et courageuses femmes. De l'aveu de tout le monde, elle était le lot d'Olympias, qui égalait Pantadia par le dévouement, Salvina par le rang dans le monde et l'illustration des alliances. Elle descendait, par sa mère, du célèbre Ablavius, préfet du prétoire sous Constantin. Après avoir été fiancée, dans son enfance, au nobilissime Constant, troisième fils de cet empereur, la fille d'Ablavius était montée sur le trône d'Arménie en épousant le roi Arsace, puis elle s'était unie en seconde noce à un noble romain qui fut le père d'Olympias. Telle était la parenté de la future diaconesse. La mort lui ayant enlevé coup sur coup tous ses proches, elle se trouva subitement orpheline et maîtresse d'une immense fortune lorsqu'elle était à peine adolescente. Une beauté merveilleuse, un caractère affable et doux, un esprit élevé, enthousiaste des grandes choses, firent bientôt de cette jeune fille le parti le plus recherché de Constantinople. L'histoire nous entretient longuement de ses perfections. Olympias, nous dit le biographe Palladius, qui vécut dans son intimité, Olympias possédait un cœur vraiment magnanime, et quand on la connaissait, quand on voyait unie à tant de beauté et de grâce ce mâle et ferme courage qui bravait les petitesses du monde, les craintes et les périls, on hésitait à l'appeler une femme. À l'âge de prendre un époux, elle jeta son choix sur un jeune homme d'un grand mérite, comte du domaine privé à la cour de Théodose. Mais ce mariage ne dura que 2 ans, et à la mort de son mari, Olympias résolut de rester veuve. Les empereurs romains, à cette époque surtout, s'arrogeaient une espèce de droit sur la destinée des filles ou veuves, nobles et riches, dont la fortune provenait soit de la faveur du prince, soit des fonctions publiques que leur père ou leur mari avaient exercées. Théodose, donc, voyant Olympias veuve à la fleur de l'âge, résolut de la remarier à un de ses parents, originaire d'Espagne comme lui, et nommé Elpidius. Olympias refusa. Elpidius n'en continua pas moins sa poursuite, soit qu'il fût réellement épris de la jeune fille, soit qu'il ne convoita que sa fortune. Blessé de ce refus, Théodose voulut commander, mais sans succès encore. « Si Dieu m'avait destiné à vivre dans le mariage, lui écrivit Olympias, il ne m'aurait pas ôté celui que j'aimais. En nous dégageant l'un et l'autre du joug que nous nous étions donné volontairement et des devoirs que la vie conjugale entraîne, Dieu m'a montré ma véritable vocation qui est de le servir dans le veuvage. » L'empereur crut voir dans ce parti étrange, à l'âge d'Olympias et dans sa condition, un effet des suggestions des prêtres désireux d'accaparer ses biens. Il fit mettre son patrimoine sous la séquestre, le plaçant sous la garde du préfet de Constantinople jusqu'à ce que la jeune veuve eût atteint sa 30e année. C'était un de ces actes de despotisme que se permettait parfois le grand Théodose, sauf à s'en repentir après. Olympias fut cruellement offensé, non seulement de la mainmise décrétée sur ses possessions, mais des procédés brutaux avec lesquels le préfet de la ville jugeait à propos de l'exercer, s'imaginant par là servir la cause d'Elpidius. Elle se révolta contre une pareille tyrannie et, appelant à son aide la dignité de son caractère et de son rang, elle écrivit à l'empereur la lettre suivante qui nous est restée. « Je te rends grâce, prince Auguste, de ce que, avec la sagesse et la bienveillance, non pas seulement d'un souverain, mais d'un évêque, tu daignes te charger de l'administration de ma fortune et m'alléger par là le fardeau des soins terrestres. Veuille couronner ton œuvre en distribuant ces mêmes biens aux pauvres et aux églises, comme j'avais l'intention de le faire. Tes agents s'y connaîtront mieux que moi, puis tu m'épargneras les aiguillons de vanité coupable qui accompagnent trop souvent la charité. » Cette lettre, où sous un calme si élevé se cachait la plus sanglante ironie, fit rougir l'empereur. Il révoqua la mesure, rendit à Olympias l'administration de son patrimoine et la laissa libre de suivre sa vocation comme elle voudrait. Elle se consacra tout entière alors aux travaux de la viduité chrétienne. Nectaire, qui occupait en ce moment le siège épiscopal de Constantinople, l'accepta pour diaconesse et en fit même sa conseillère dans toutes les affaires de son église. Rien ne se décidait sans elle, nous dit le contemporain que nous avons déjà cité. Chrysostome, après Nectaire, lui montra une confiance égale avec une affection plus grande encore, car il put mettre à l'épreuve chez cette noble femme des facultés de dévouement dont Nectaire n'avait pas eu besoin. Olympias, en retour, voyait en lui plus qu'un père et presque un dieu. Elle apporta de douces consolations à cet homme austère et chagrin dans les difficultés d'une vie qu'il gâtait trop souvent par les exagérations de son caractère. Adoucir ses fatales aspérités fut son travail de chaque jour. Elle veillait aussi sur les besoins de sa vie matérielle et se chargea de le nourrir, car ainsi que je l'ai dit, Chrysostome, peu capable de ce vulgaire souci pour lui-même et poussant l'isolement jusqu'à la manie, eut ruiné à plaisir une constitution déjà bien délabrée. La persécution de ce grand et malheureux homme ouvrit pour Olympias une ère d'épreuves où son âme se déploya tout entière. Il nous suffit de dire ici que sa fidélité à cette cause qu'elle regardait comme sainte ne faiblit ni devant la prison ni devant l'exil, ni devant les chevalets du martyre. Tels étaient, à la fin de l'année 400, et un peu plus d'un an après la chute de Trope, la composition des deux camps et les prodromes de la guerre, quand une absence de l'archevêque, appelée en Asie par les désordres de l'église d'Éphèse, permit à ses ennemis de tirer leurs armes et de commencer le combat.